VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Il est 17h, temps universel. Le procès de 13 accusés du double emploi, du double attentat qui a tué 76 personnes en 2010 à Kampala durant la Coupe du Monde de football s'est ouvert mardi, près de 5 ans après. Dans la capitale ougandaise, le 11 juillet 2010 à Kampala, deux kamikazes avaient déclenché leur ceinture d'explosifs, l'un dans un restaurant éthiopien, l'autre dans le bar d'un club de rugby, alors que les deux établissements retransmettaient la finale de la Coupe du Monde. Les 13 accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et un Tanzanien, sont tous inculpés de nombreux chefs, notamment actes de terrorisme et meurtre. Tous sauf un sont également inculpés pour appartenance à une organisation terroriste, en l'espèce les islamistes somaliens Shebab, qui avaient revendiqué l'attaque. Une dizaine de personnes ont été arrêtées ce mardi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces militants de lutte pour le changement protestaient devant les locaux de l'Agence nationale de renseignement. L'ANR détient un des leurs à Kinshasa depuis dimanche. Fred Boma avait été arrêté avec des membres du mouvement sénégalais Yanamar et burkinabé Balé Citoyen. Ils entendaient sensibiliser la jeunesse congolaise sur les questions de gouvernance et de démocratie. Au moins 10 personnes, dont 2 élèves, ont été tuées et plusieurs autres blessées dans le nord-ouest de la Centrafrique au cours d'une attaque menée par un groupe armé venu du Tchad. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source au sein de la gendarmerie. Cela s'est passé samedi dernier dans la région de Gwandaï. Plusieurs villages dans le nord de la Centrafrique ont subi ces derniers temps des attaques similaires de bandes armées. Des éléments des forces internationales se sont déployés dans ces régions pour sécuriser les populations. Au Tchad, nouveau développement dans l'enquête judiciaire ouverte par le gouvernement suite à la mort d'un étudiant la semaine dernière lors d'une manifestation contre le port obligatoire du casque. Des éléments de la police d'intervention ont été arrêtés aujourd'hui. Une arrestation qui vient au lendemain de la publication d'une vidéo dans laquelle on voit des policiers battre des jeunes. Une vidéo particulièrement choquante. Pour nous en parler, Salwa Diafari a joint par téléphone M. Dezumbe Daniel Passalé. Il est président de Droits de l'Homme sans frontières.
Ça, c'est une mesure gouvernementale, une mesure administrative que nous apprécions. Mais nous souhaitons que cela soit pérenne, parce qu'il ne faut pas faire ça simplement pour jeter de la poudre aux yeux des gens et puis faire autre chose. Ça, vraiment, c'est une chose intéressante. L'autre chose que nous avons appréciée, elle est antérieure à cette mesure, c'est l'ouverture d'une enquête judiciaire. Nous avons demandé au gouvernement à son temps d'ouvrir une information judiciaire. Si le gouvernement y est arrivé, ça, vraiment, nous apprécions pas et à sa juste valeur. Mais nous voulons que vraiment que la justice soit indépendante, que le gouvernement ne revienne pas par ailleurs obliger la justice à poursuivre ses enquêtes et à laisser tomber certaines pistes. Ça, vraiment, il faut que le gouvernement lave le nez de cette histoire-là, que l'enquête soit indépendante de nature à dire clairement à l'opinion que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les rebelles sud-soudanais ont dit ce mardi être engagés dans d'intenses combats avec les troupes gouvernementales. Les affrontements ont lieu près de la localité de Rink, dans l'état pétrolier du Haut-Nil, proche de la frontière soudanaise. Des sources humanitaires ont confirmé des combats dans cette zone, mais sans pouvoir donner plus de détails. Félix Yepassi Zembro.
Le gouvernement sud-soudanais a affirmé hier que ses troupes ont tué de nombreux combattants rebelles près de Rank, ce qu'un porte-parole rebelle, Loni Ngundeng, a démenti auprès de l'AFP à Addis Abeba, assurant au contraire que l'armée sud-soudanaise avait subi de lourdes pertes. Les deux camps qui s'affrontent depuis décembre 2013 s'accusent mutuellement d'être à l'origine des combats autour de Rank. Après plus d'un an de pourparlers largement stériles à Addis Abeba, sous médiation de l'organisation gouvernementale est-africaine IGAD, les responsables des deux parties au conflit se sont séparés sur un constat d'échec au début du mois de mars, suscitant la colère des médiateurs et de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté quelques jours avant l'échec des pourparlers une résolution prévoyant des sanctions contre les belligérants, mais n'a pas encore formellement désigné les individus concernés.
En Côte d'Ivoire, reprise aujourd'hui au tribunal militaire d'Abidjan du procès des 14 soldats de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts. Ce procès ouvert jeudi dernier avait été renvoyé à ce mardi pour irrégularité de procédure. Le président du Sénégal annonce vouloir réduire son mandat de 7 à 5 ans conformément à l'une de ses promesses électorales lors de la campagne de 2012. Le chef de l'État va soumettre la question à référendum en 2016 en vue d'organiser la prochaine présidentielle en 2017 et non en 2019. Macky Sall a fait cette déclaration lors d'une rencontre à Dakar avec l'Association de la presse étrangère au Sénégal, la première depuis son investiture en avril 2012. La Cour d'appel de Paris a condamné à 6 ans de prison un Français candidat au djihad arrêté en 2012 au Mali alors qu'il tentait de rejoindre des groupes qui s'étaient emparés du nord du pays. En première instance, Ibrahim Ouattara, 27 ans, avait été condamné à 4 ans de prison. Le parquet, qui avait requis 2 ans de prison de plus, avait fait appel. Le jeune homme avait déjà été condamné en mars 2014 à une peine de 7 ans pour avoir vainement tenté en 2009 et 2010 de gagner des maquis djihadistes au Pakistan, en Afghanistan ou en Somalie, sans jamais y parvenir.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les Israéliens se sont rendus aux urnes pour renouveler leur Knesset au Parlement. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, brigue un quatrième mandat dans ce scrutin. Michel Joseph.
Les derniers sondages effectués avant le vote d'aujourd'hui donnent l'avantage à l'Union sioniste d'Isaac Herzog, qui dirige une alliance de centre-droit face à M. Netanyahou. Mais aucun des deux leaders ne devrait avoir la majorité absolue de 61 sièges au Parlement de 120 membres. Dès lors, chacun de son côté déploie de gros efforts pour obtenir le soutien de plus petits partis, allant des formations communistes aux partis arabes et aux blocs de juifs orthodoxes. Pour les analystes, cette élection est un référendum sur la gestion Netanyahou. Hier, à la veille du scrutin, le Premier ministre est revenu sur sa position concernant la création d'un État palestinien, disant que s'il reste au pouvoir, un tel État ne verra jamais le jour. Mais, selon les sondages, les questions socio-économiques, la cherté de la vie et des logements. En tout état de cause, M. Herzog insiste sur la nécessité de négocier avec les Palestiniens.
Kaboul se félicite des informations selon lesquelles les États-Unis renonceraient à leur projet de ramener à 5500 le nombre de leurs soldats en Afghanistan avant la fin de 2015, suite à une requête de leur chef militaire sur le terrain. Les précisions de Lionel Gahima.
Le représentant permanent de l'Afghanistan à l'ONU, Zahir Tanin, a dit aux journalistes à New York qu'il est nécessaire pour les États-Unis de mieux évaluer les réalités sur le terrain dans le cadre de leur partenariat stratégique avec l'Afghanistan et apporter les ajustements requis. Cela permettra à l'Afghanistan, a ajouté M. Tanin, de mieux faire face à ses défis sécuritaires. Bien qu'aucune décision finale n'ait été faite sur le nombre concerné, les officiels américains disent qu'on s'attend à ce que le gros de 10 000 soldats actuellement en Afghanistan reste dans le pays au-delà de 2015. Une annonce officielle pourrait intervenir, vraisemblablement, la semaine prochaine lors de la rencontre à Washington entre le président Barack Obama et son homologue afghan Ashraf Ghani. Hier, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, s'est refusé à commenter tout chiffre spécifique, se contentant de déclarer « Je peux vous dire que le président est en consultation étroite avec son équipe chargée de la sécurité nationale ainsi qu'avec ses chefs militaires sur le terrain au sujet du rythme adéquat du retrait militaire ».
Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Rendez-vous dans 55, dans 50 minutes.